d'été.
Bonjour à toutes.
Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Né à Oran en 1937 d'une mère juive allemande exilée et d'un père juif algérien et français qui s'apprêtait à vivre un exil lui aussi, Hélène Cixous est à plus d'un titre fille de l'arrachement et de l'histoire. L'exil de James Joyce ou l'art du remplacement, dedans, le rire de la méduse, Ève s'évade, les ruines et la vie, tels sont quelques-uns des titres de son œuvre considérable qui compte près de 40 romans et une vingtaine d'essais, à quoi il faut ajouter sa collaboration avec Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil depuis plus de 30 ans pour des spectacles comme Les Euménides, La Ville Parjure, Les Naufragés du Fol Espoir plus récemment ou Une Chambre en Inde. Et à tout ceci s'ajoute encore un travail théorique et critique considérable sous la forme de séminaires longtemps restés inédit et dont Gallimard publie cet hiver un premier volume réunissant les cours de 2001 à 2004, c'est-à-dire ceux qui correspondent à l'irruption du nouveau siècle. En parallèle sort « Ruines bien rangées », un texte littéraire que l'on pourrait qualifier de méditation autobiographique sur le temps, sur certains lieux hantés par l'histoire et par la haine, et qui nous donne l'occasion de réfléchir à la littérature et à l'histoire avec Hélène Cixous. Hélène Cixous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. J'ai commencé en évoquant ce volume de séminaire publié par Gallimard. Et est-ce que j'extrapole trop quand je dis que c'est pas par hasard si ce volume réunit les cours de 2001 à 2004, qu'il y a une intention pour vous de saluer le nouveau siècle par la littérature en quelque sorte?
Ah oui, non, je sais pas, je crois pas qu'on ait pensé à ça pour dire les choses. Mais je pense que d'abord ça a été choisi par l'éditrice de cet énorme volume qui est Martha Segarra, mon amie et ma collègue. Non, c'est une période, voilà, c'est une période dans notre époque. Mm-hmm. Et disons que un de nos tournants de ce qui nous bouscule, nous renverse, nous expulse de notre train-train temporel, c'était 2001.
Oui.
Là, on s'est retrouvé devant des événements qui nous apparaissaient comme encore jamais arrivés. Et, oui. et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des événements encore jamais arrivés.
Oui.
Donc je pense que le déterminant, c'était un ensemble temporel qui faisait sens, alors que pour moi, tout est littérature. En fait, la littérature ne se passe pas de l'histoire et de l'événement.
Mmh, mmh.
C'est ça qui a décidé.
Mmh. C'est ça. C'est la position que vous tenez pratiquement depuis le début. C'est-à-dire quand on vous lit et quand on vous écoute parler de littérature, vous êtes à la fois très présente dans l'histoire. L'histoire est quelque chose qui compte pour vous et en même temps la littérature s'affirme comme quelque chose qui va contre l'histoire. On pense à la phrase de Joyce sur le cauchemar. L'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller, qui est une phrase très célèbre. Et on a l'impression que c'est dans cet héritage-là que vous vous situez.
Oui, enfin, ça c'est la forme de Joyce.
Mm-hmm.
Moi, je pense que, pour moi, la littérature, depuis toujours, parce que c'est vraiment depuis ma plus petite enfance, et ça a été surdéterminé historiquement, c'est le royaume, le pays, le monde auquel nous avons accès au-delà de notre planète. Toujours en proie aux flammes.
Mmh.
Et évidemment, nous sommes déterminés par notre histoire singulière. Moi, mon histoire singulière, elle fait que je prends la parole, si je peux dire, au moment de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Et dans un pays où se superpose une quantité incroyable de violence, de racisme, de phobie de tout genre, de haine, de massacre. Et je pense que dès que j'ai eu 2-3 ans, et que j'ai vu mon père être mobilisé, pour être démobilisé, mobilisé en tant que médecin, donc médecin lieutenant, démobilisé en tant que juif,
mm-hmm.
Donc je pense que j'ai pensé tout de suite, mais où va-t-on, où est-ce qu'on peut aller pour être un être humain, pour respirer, pour entendre les oiseaux, c'était dans les arbres avec des livres.
Mmh.
Ça tout, voilà. Donc mon expérience qui a une logique interne très forte, à mon avis, elle est partagée par d'autres, évidemment.
Oui, Oui, tout à fait.
Enfin,
oui.
L'art, c'est l'échelle qui nous permet de nous évader de notre planète. Et moi, mon art, c'est la littérature, mais ça aurait pu être la peinture, la musique. Non, il se trouve que j'ai été déterminée dans la langue. Voilà. La langue, pour moi, c'est le principal.
Oui, vous avez commencé en parlant du sentiment d'expulsion qu'on éprouve, d'exil presque qu'on éprouve depuis le début du siècle entre le terrorisme et aujourd'hui la pandémie. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles il me semble que votre œuvre est actuelle, parce que c'est un de vos thèmes. Enfin, cette sensation d'exil, cette idée que l'histoire, le monde brûle et on est exilé de nos vies en quelque sorte, et il faut faire avec. Et l'art permet ça.
Oui, alors, vous voyez, il se trouve que l'exil, c'est aussi un mot de Joyce, mais c'est pas le mien.
Oui.
Et je le relève parce que ma mère, enfin ma famille maternelle, juive allemande, a fait l'expérience du nazisme. Mm-hmm. Une très grande partie de cette gigantesque famille a été déportée et assassinée. Mais jamais ma mère n'a pensé qu'elle était une exilée. Elle a pensé qu'elle était une citoyenne du monde. Mm-hmm. Et que, après tout, on n'était pas obligé de se considérer comme appartenant à un pays, une sorte d'illusion qui est tombée très vite, aussi bien pour elle de son côté que pour mon père, et qu'on pouvait être un voyageur de l'univers.
Alors, Ruines bien rangées, ce qui est le livre sur lequel on va s'attarder là dans cette émission, vous revenez à Osnabrück, qui a été le lieu de plusieurs de vos livres auparavant. Osnabrück est donc la ville de votre mère, qui s'appelait Hélène Klein, et le livre commence par une sorte de voyage dans la ville aujourd'hui, et tout de suite, c'est l'aspect double de cette ville, l'aspect double du territoire qui est frappant dans le livre. Vous mentionnez à la fois, il est doublement double, si je puis dire, parce qu'il y a l'espace et puis il y a le temps sur lequel vous jouez. Vous parlez de la ville comme du lieu où on a édifié les premières cathédrales sous Charlemagne, c'est aussi la ville du traité de Westphalie qui fonde l'Europe, et c'est bien sûr la ville où sont tuées les sorcières, qui sont noyées en masse dans la Hasse ou brûlées vives, et c'est la ville où le nazisme va frapper, et notamment va frapper votre famille. Et vous parlez très vite de fiction, d'une ville fiction. On le sait en Allemagne, personne ne sait où Osnabrück, vous écrivez-vous. Osnabrück est une fiction. Chaque fois que j'examine une carte de l'Allemagne, je la cherche. Et un peu plus loin, votre fils fait remarquer l'absence totale de panneaux publicitaires dans la ville du XXIe siècle. C'est cette étrange virginité murale qui fait de la ville une vraie fiction. C'est-à-dire que vous êtes sur les traces d'une histoire et en même temps, cette histoire, elle échappe constamment.
Elle n'échappe qu'à ceux qui n'ont pas de, qui ne s'y intéressent pas, et qui sont les annulateurs de la mémoire. Parce qu'autrement, je dois dire qu'Osnabrück est tout à fait remarquable. Je dirais deux mots sur la ville actuelle.
Oui.
Par le fait qu'elle cultive la mémoire. D'abord, en Allemagne, il y a une culture de la mémoire, qui s'appelle Erinnerungskultur, qui est généralisé, c'est un geste politique très très répandu, avec énormément de manifestations extrêmement frappantes. Mais là-dessus, il se trouve que cette petite ville, comme disait ma mère, c'est-à-dire que cette petite ville qui n'existait presque pas, mais qui est devenue de plus en plus importante, qui maintenant a 165 000 habitants, mais qui n'en avait que 20 000 quand ma famille est arrivée, c'est une ville qui qui a été choisie par le destin, pour être le théâtre, la scène d'événements majeurs pour nous tous, pour toute l'Europe et pour le monde. Parce que, par exemple, le traité de Westphalie, il faut dire que c'est un traité qui met fin à la guerre de 30 ans, qui a fait des millions et des millions et des millions de morts. Mmh. Donc, à ce moment-là, je reviens à notre époque, c'est-à-dire à nos millions de morts, de millions, de millions, de millions, de 14-18, puis de 39-40, puis de maintenant, etc. Or, à Osnabrück, c'était comme ça. Et au bout de 30 ans, et il faut dire une chose, que la guerre de 30 ans, il faut le dire, c'est une guerre de religion.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une religion qui veut éliminer l'autre, le catholicisme et le protestantisme s'entretuent. Et ça se termine, comme dans un conte de fées qui n'existe pas en réalité, par un traité qui fonde l'Europe. Parce que tous les pays européens étaient engagés dans cette guerre.
Oui.
Tous. Mmh, mmh. Et tous sont venus signer une paix Et ça leur a pris des mois et des mois et des mois. Je crois que ça leur a pris 5 ans pour arriver à signer la paix. Ça fait penser au Brexit, hein.
Oui.
Et puis, cette paix a été signée dans un petit rathaus, dans une petite mairie, qui est toujours là, et dans une salle d'honneur où il y a 48 portraits, aujourd'hui encore, hein, des souverains qui ont signé ce traité. Et donc, c'est merveilleux de se dire, en 1648, c'était la paix quasiment universelle. Mmh. Tout l'Occident a été impliqué dans la paix entre les religions. Et non seulement ça, mais Osnabrück a décidé localement alors d'appliquer cette paix. Et alors l'archevêché et son palais, parce qu'il y avait, c'était ça qui dominait la ville, étaient occupés successivement par un catholique, par un protestant, etc. Voilà. Mmh, mmh. Alors on se dit, ah ben voilà, ça finit bien, sauf que ça recommence.
Oui.
Que bien sûr que les guerres de religion recommencent autrement, en se déplaçant. Et voilà.
Oui, c'est ça.
Et puis, donc ce petit théâtre est le théâtre de tous les événements de notre monde occidental. Parce que, voilà. Maintenant, je dois dire une chose, et ça c'est très intéressant, c'est que chaque année, la petite ville d'Osnabrück, dans les lieux mêmes où le traité a été signé, fait une fête, et une fête pour les écoliers, une fête culturelle. Mmh. Donc tous les enfants de 10 ans jouent le traité d'Osnabrück, arrivent à cheval. 1500 ans, écoliers. J'y étais l'an dernier parce que la mairie m'avait invité. Et donc, 1500 petits écoliers arrivent pour célébrer ce moment merveilleux. Voilà. Sauf que l'an dernier, j'assiste à la chose et je vois les petits Osnabrückois. Mm-hmm. Et alors, ils sont quoi? Ils sont de toutes les couleurs.
Oui.
Voilà. Mm-hmm. Oui. De toutes les couleurs et de tous les horizons. Et on se dit que ça, c'était un impensable. Le petit Osnabrück n'a jamais pensé qu'il allait cesser d'être blanc allemand, etc. Alors, et c'est le cas. Mmh. Et donc, ça, c'est une histoire de guerre, de réconciliation, de moments de sérénité immédiatement perdus. Et voilà.
Oui. Et c'est pas sur cet aspect réconcilié que vous vous attardez dans le livre. Hein. Le livre est plutôt, par certains aspects, une archéologie. Vous le dites d'ailleurs dans le texte. Vous parlez d'archéologie, une archéologie de la haine. La mémoire se promène à travers les siècles. Vous parlez des 127 sages-femmes jetées à l'eau qu'on attachait par le gros orteil gauche au pouce droit en 1641.
C'est ça. Voilà.
Vous parlez de la tour Buxtorm où on pouvait compter les cris. Enfin, le bourreau aurait compté les cris pour arriver à 5960 cris de suppliciés notés dans les rapports de sa carrière. Et puis vous enchaînez sur les souvenirs de la guerre, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, enfin, avant même la guerre, les souvenirs du nazisme et puis les suicides, les arrestations, les morts et les gens qui sont partis. C'est-à-dire que ce qui vous évoquez le personnage d'un rabbin de remplacement qui était un ami de votre mère, si j'ai bien compris, et qui est dont vous faites un personnage de Tchekhov presque, qui n'était pas croyant, mais qui faisait les offices dans la synagogue et qui rêvait de réciter Baudelaire en français, de traduire Baudelaire en hébreu. C'est un homme pour qui la culture française avait énormément d'importance et qui lui aussi a été balayé par le nazisme. C'est ce pèlerinage de la mémoire dans un lieu qui est sous-tendu par le sentiment du déchirement constant dans le livre. Il y a quelque chose avec le temps. Vous jouez sur les notions de temps. Vous écrivez à un moment donné la vitesse à laquelle on est séparé du monde de la veille. La veille encore, je dormais dans mon lit. On habitait, la maison était vaisselle, rideau, poêle de faïence. Et puis soudainement, il n'y a même pas de subitement. Tout se passe en moins d'une seconde. Et on ne sait plus ce qu'était le monde d'avant. Tout est bouleversé par l'irruption de l'histoire et de la violence.
Oui, mais je pense que les choses se produisent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a, pour nous tous, c'est la loi de notre vie. Et que ça se passe dans les années 30 du 20e siècle ou dans les années 30 du 17e siècle, ça se produit de la même manière. Nous l'avons vécu cette année. Alors, moi, j'ai écrit ce livre avant cette année, hein. Donc cette année, de la même manière, d'un jour à l'autre, alors le 17 mars, poum, on a changé d'époque.
Voilà. C'est ça.
Alors on n'y croyait pas, mais c'est quand même, je me rappellerai toujours du 17 mars de 2020. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, on n'y croit pas, mais voilà, l'ancien monde a disparu. On se retourne, il y a un abîme, et devant, ben il y a un autre abîme ou un désert, parce qu'on ne sait pas du tout s'il va y avoir un autre monde. Et ça, c'est la façon dont les événements dans l'histoire interviennent, interrompent le fil de notre existence, de notre lecture. Et bien sûr que il se trouve que par chance, mais ça c'est évidemment le cadeau de la littérature, quand j'ai commencé à découvrir Osnabrück, tardivement, très tardivement, je me suis dit, mais c'est comme si ici vivait le petit livre des malheurs et des stupéfactions de l'humanité.
Alors c'est ce rapport au temps, cette espèce de déchirement brutal comme ça, qui fait que les choses deviennent, ce qui était familier devient complètement, non seulement étranger, mais disparaît tout simplement.
Disparaît, oui.
Ce qui était finalement la condition des réfugiés ou des gens qui devaient fuir leur pays il y a un certain temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui font que votre livre est si contemporain, aujourd'hui c'est la condition commune en fait.
Mais oui. Mais vous savez, à l'époque aussi, parce que quand je vous disais, par exemple, que la guerre de 30 ans, c'était toute l'Europe. Mais elle a failli mourir. Elle a été vidée de son sang, de ses habitants. On n'y pense plus parce qu'on ne se retourne pas. Et je dois dire que c'est normal, parce que si on regardait, si on était spectateur, comme je m'attarde à le faire de temps à autre, des douleurs épouvantables de l'humanité, on aurait du mal ensuite à reprendre espoir. N'empêche que ça fonctionne de cette façon-là. Mais si vous voulez, moi, quand même, la métaphore ou ce qui me permet de peindre quelque chose, d'être peintre, c'est très concret. Or, le concret de ce texte, ce sont les prisons et si je peux dire, et ces synagogues tellement étranges qui ont, comme vous le savez, brûlé 1500 synagogues, ont été brûlées d'un seul coup la nuit de cristal en 38, le 9 novembre 38. Et la synagogue d'Osnabrück, qui c'est comme dans un conte de fées noires, la synagogue d'Osnabrück, elle était toute jeune. Mm-hmm. C'est pas une vieille synagogue comme la synagogue de Prague, par exemple. Mm-hmm. Elle venait à peine de naître. Mm-hmm. Les Juifs venaient à peine, justement, de se détendre, de se dire qu'ils étaient des citoyens allemands, d'avoir le sentiment d'être des Allemands, parce que ça c'est une chose aussi qu'on a du mal à imaginer, mais c'était ça les Juifs allemands, c'est une espèce parmi d'autres. Et donc cette synagogue, c'est le triomphe de cette minuscule communauté qui se dit, ah ben on n'a pas de synagogue, on va en construire une. Elle naît en 1905. Et ce qui m'amuse, c'est que pauvre Baruth, le rabbin qui est un rabbin raté.
Oui, un rabbin de remplacement, oui.
Un rabbin de remplacement, parce que de remplacement, il n'a jamais été rabbin, c'était un prédicateur. Mais surtout, il était remplaçant à ses propres yeux, parce qu'il n'avait pas la foi. Mais il est né en 1905, il est mort en même temps que la synagogue. Enfin, juste avant. Cette synagogue qui était splendide, a brûlé comme une boîte d'allumettes. Et ça, pour moi, c'est du concret. Par contre, ce qui n'a pas brûlé, qui est toujours là, c'est la Boxsturm, la tour aux sorcières. Elle est toujours là. Et je l'ai visitée. Elle n'est pas ouverte à tout le monde tout le temps, mais je l'ai visitée. Et dans cette magnifique petite tour, qui pour moi est la jumelle de la tour de Montaigne, elle a exactement les mêmes proportions. On se croirait dans la tour de Montaigne, mais c'est la tour des sorcières. Et dans cette tour, il y a encore les instruments de torture qui faisaient que les sorcières avouaient précipitamment qu'elles étaient sorcières. Voilà. Et ça, les prisons, ça me parle.
Oui.
Parce que je pense que nous avons affaire à la prison. En tout cas, moi, pour moi, c'est un thème essentiel de mon imagination, de ma mémoire. Et puis, c'est alimenté, et c'est la chance ou la malchance, par des événements réels.
Oui.
D'abord par la tour des sorcières devant laquelle ma mère passait très souvent quand elle était petite. Là, on passe d'ailleurs très vite vers la rivière où on essaye de noyer les sorcières.
Les sorcières, oui.
On passe par une toute petite allée minuscule, qui est toujours là, qui était l'allée des sorcières qu'on empruntait, qui allait jusqu'à la rivière et que ma mère prenait pour aller au lycée. Elle est toujours là, elle s'appelle toujours comme ça, ses pavés sont toujours là, rien n'a disparu. Et bien sûr que ça disparaît si on ne le regarde pas. si on n'entend pas les messages. Mais cette ville, elle parle de tous les côtés, comme Paris hein, aussi. Mais moi, je trouve que Paris parle beaucoup moins qu'en Saint-Vruc. C'est pas les mêmes dimensions.
Oui, c'est ça. C'est ruines qui parlent, en fait. C'est les ruines du titre. Qui
absolument. Et de cette synagogue somptueuse qui a été réduite en quelques heures à rien, reste ce qui, pour moi, est apparu, mais j'ai mis du temps à l'apercevoir, probablement parce que je voulais pas le voir, ce qui est apparu comme une cage pleine d'ossements. C'est-à-dire que les gens, je ne sais quand et comment, ont récolté les ossements de la synagogue. Il est resté des moellons, voilà. Ah oui. Et ça a été ramassé et conservé dans une sorte de cage, devant laquelle on passe. Et derrière laquelle, il y a un parking.
Ah oui, c'est extraordinaire.
I stumbled out of bed. I got ready for the struggle. I smoked a cigarette and I tightened up my gut. I said, this can't be me. Must be my double. And I can't forget. I can't forget, but I don't remember what. I'm burned. Up the road, I'm heading down Phoenix. I got this old address of someone that I knew. It was high, fine, free. Ah, you should have seen us. And I can't forget. I can't forget, but I don't remember who. I'll be there today with a big bouquet of cactus. I got this ring that runs.
Voilà, j'ai choisi cet extrait de Leonard Cohen à cause du refrain en particulier, I can't forget but I can't remember what, qui me semble faire écho à quelque chose de votre livre aussi, Hélène Cixous, quand vous écrivez, vous citez Hélène de Troyes, si cela a jamais été, si ce passé a jamais été vrai, une fois que les choses sont, une fois que l'arrachement s'est produit, le passé devient presque une fiction.
Oui. Alors, je tiens à dire que si ce passé a jamais été vrai, ce n'est pas de moi, mais de l'autre Hélène.
Oui, oui.
La vraie, la première, si oui. Je peux dire, dans notre mémoire.
Oui.
C'est-à-dire de Hélène de Troyes.
Hélène de Troyes, absolument. C'est elle que vous citez dans le texte.
Oui.
Hélène est à la fois votre prénom, le prénom d'Hélène de Troyes, et le prénom de votre arrière-grand-mère, je crois.
Arrière-grand-mère, oui.
C'est ça, hein.
Oui. Oui.
Et vous jouez avec le temps à travers les prénoms dans le texte. Alors, on parlait des prisons d'Osnabrück. Il y a d'autres prisons qui se situent en Algérie. Votre famille, vous dites à un moment donné que votre famille s'est exilée un peu partout, mais que votre mère est la seule à s'être exilée dans un pays francophone.
Non, mais justement, je vous dis, c'est pas le mot qu'elle a jamais utilisé.
Elle a pas exilée. Oui, pardon. Alors, elle s'est pas exilée.
Non,
en tout cas, elle est partie. Non, mais vous avez raison. Oui. Il faut édifier. Tout à fait. En tout cas, elle est allée en Algérie. Et c'est là que se situe l'autre lieu de votre mémoire. L'autre arrachement, cette fois l'arrachement du père, dont vous dites qu'il était. Alors, est-ce qu'il était ou est-ce qu'il n'était pas un juif du décret Crémieux?
Non, pas du tout. Il était. La famille de mon père a pris la nationalité française avant le décret Crémieux.
Avant le décret Crémieux.
En 67, voilà. Et c'était sous Napoléon III.
En 1867.
Napoléon III a proposé à ce qu'on appelait les indigènes, juifs et arabes, la nationalité française. Et il y a eu très 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 peu de familles qui ont trouvé leur avantage à ça, dont la mienne. Et donc c'est... Parfois, d'ailleurs, j'y pense avec une sorte de sourire amusé, parce que comme la nationalité est toujours contestée, à commencer par le fait que, avec la promulgation du statut juif, les juifs ont été jetés hors de la nationalité française, dont notre famille.
Oui.
Et que donc, mon père a appris à ce moment-là que la nationalité, ça n'existait pas, c'était une illusion parmi d'autres. Il se trouve que, d'une certaine manière, on peut dire que cette famille Sixou, elle était française avant même, justement, la plupart des gens en Algérie.
Alors,
c'est une très vieille illusion.
Oui. Alors, vous parlez d'illusion à propos de la nationalité. En même temps, vous dites dans le livre que votre père, dès qu'il a la nationalité française, c'est votre fils dit ça à un moment donné, la Troisième République, on invente la nation française à ce moment-là, les juifs indigènes d'Algérie deviennent français, tout de suite après, ils achètent Victor Hugo. C'est-à-dire qu'il y a cette, comme pour Barout à Osnabrück, il y a de la part de votre père, il y avait au départ un très grand enthousiasme pour la culture française, pour ce que la France représente. De culture.
Oui, mais alors, pour être historiquement juste, même, je ne sais pas si c'est indispensable, mais quand même,
oui.
C'est pas mon père qui était un enthousiaste, mm-hmm. c'était son père.
Mm-hmm.
Son père qui a travaillé à 11 ans, qui était d'une famille extrêmement pauvre, et qui a acheté tout Victor Hugo,
oui.
dans le format géant des Grands Larousse. Je ne crois pas qu'il les ait lus, tous ces volumes. Mais par contre, ça, c'était vraiment la France imaginaire et à juste titre. Hein. C'était le grand rêve.
Oui.
Bon, c'est le père de mon père qui a eu ce très grand rêve et qui, je crois, était quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur terre. Bon, mon père, à mon avis, il avait déjà l'expérience extrêmement étendue des antisémitismes. Par contre, il était socialiste et athée, donc il appartenait à une autre époque. Et je pense que parce qu'il est mort extrêmement jeune, il a eu le temps d'être jeté hors de la nationalité française et interdit d'exercer la médecine.
Mais alors, la question que je me pose, c'est justement à propos de cette notion d'illusion. Est-ce que la nationalité est une illusion ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Parce qu'après tout, la culture est quand même si c'est une dimension imaginaire, c'est une dimension imaginaire qui est aussi réelle. La culture française comme idéale pour des personnages comme Barut à Osnabrück ou comme votre grand-père, ça fait partie de l'identité française néanmoins.
Mais c'est une question de langue.
Oui.
Non, la nationalité, c'est un outil. C'est un peu, si vous voulez, ce qui se passe, par exemple, pour les Anglais. Ils étaient européens, ils ne le sont plus.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qu'on peut supprimer, qu'on peut ensuite changer, qu'on peut... Bon, c'est une sorte de fantasme nécessaire pour la socialisation, mais s'identifier, c'est ça, par contre, c'est l'illusion. Et c'est une illusion qui a des puissances parfois... bonne, positive et parfois tout à fait néfaste. Puisqu'on dénie justement la qualité de français à des gens qui le sont.
Vous décrivez dans le livre l'effet du statut des Juifs de 41 sur votre père, qui a été, ça a été un effet dévastateur, d'après ce que vous dites.
Oui, alors je n'y étais pas, mais je le sais.
Oui.
J'en ai vu 1000 traces. Je n'y étais pas parce que j'étais toute petite.
Oui.
Mais j'ai vu d'abord la révolution complète de notre existence. Même si je n'avais que 3 ans, j'étais consciente de tout ce qui se passait. Et je pense que là, pour mon père, ça a été la fin de quelque chose. Et ça s'est combiné avec 1000 autres choses, mais c'est comme dans Kafka. C'est-à-dire que la guerre et la tuberculose ont fait cause commune.
Vous écrivez à un moment donné, il est 16h et jusqu'à la nuit, mon père restait tendu sur son lit, le corps dématé, juste après avoir lu le journal dans lequel le statut des Juifs est annoncé. Et vous dites comme ça tombe comme un jugement, hein, ne crois plus, tu ne te fieras plus jamais. Ne plus être français, ça ne veut rien dire, si on ne l'est plus, c'est qu'on ne l'a jamais été.
Oui, c'est évidemment l'interprète. Des passions qui écrit.
Oui.
Je n'y étais pas. J'imagine tout à fait. C'est ce qu'on fait quand on fait du théâtre ou quand on écrit, c'est-à-dire aller scruter une âme qui ne se défend pas, qui s'offre Et je me dis, qu'a pensé, moi, Georges, qu'est-ce que j'éprouve quand je déplie, et ça, le document, je l'ai, quand je déplie l'écodorant, par exemple, et que je vois sur la grande première page l'arrêt de mort. C'est immense, quoi.
C'est-à-dire que parmi les personnages du livre, je fais un parallèle moi entre les deux personnages qui croient aux mots, qui sont Baruth et votre père, et puis de l'autre côté votre mère qui dit qu'elle n'a pas été étonnée par le statut des Juifs, comme si elle était beaucoup plus lucide en quelque sorte, comme si le premier arrachement à Osnabrück lui avait retiré dès ce moment-là toutes ses illusions. Vous lui faites dire, ou en tout cas votre narratrice lui fait dire qu'elle n'aime pas l'histoire, que pour elle la paix n'est qu'une illusion, c'est la guerre, la paix c'est la guerre épuisée. Elle se fait beaucoup moins, elle croit beaucoup moins aux mots que votre père semble y avoir cru, en tout cas le père dans le livre, ou votre grand-père, ou Baruth qui s'il ne croit pas en Dieu croit quand même au pouvoir de la langue et au pouvoir de la poésie.
Oui, mais ce sont des encore une fois ce sont des réinventions de personnes que je connais, que j'aime, dont j'ai écouté battre le cœur. Ce sont des fantômes géniaux, et je sais à travers tout ce que ma mère a pu dire dans sa très longue existence, puisqu'elle était le contraire de mon père, lui c'était un très tôt, elle très tard. Je sais que elle a toujours résisté à toutes les illusions. Je crois que c'était, elle n'avait pas la même histoire non plus. Son père en tant que soldat allemand, est mort en 1916 en tant que soldat allemand. C'est-à-dire qu'elle avait déjà vécu la première expérience de la Première Guerre mondiale, puis l'arrivée du nazisme, c'est-à-dire qu'elle était finalement beaucoup plus avertie que ne l'était mon père, qui était déjà très averti.
Et donc votre père est mort en 48 de tuberculose, et votre mère est très, c'est à ce moment-là que votre mère a commencé à travailler comme sage-femme.
Non,
en Algérie,
elle s'est mise à faire des études de sage-femme parce qu'elle n'était rien.
Voilà.
Elle était l'épouse de mon père. Enfin, elle avait travaillé, jeune fille, mais uniquement comme en transition. Et elle a cherché comment survivre. Et je crois qu'elle a eu la chance de trouver sa vocation absolue parce que c'était une sage-femme absolue. C'est ce qui a fait tout le sens de son existence. C'était une admirable sage-femme et une amie des femmes, mais de manière toujours efficace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire qu'elle souffre moins, que ça se passe mieux, qu'elle ne meure pas, que les enfants aient bien, etc. Voilà.
Oui, c'est ça. Et à un moment donné, enfin, on a le sentiment dans le livre qu'elle apparaît comme une sorte de par sa profession même, comme une sorte de contrepoids aux horreurs de l'histoire. Hein. Quelqu'un lui demande à un moment donné d'où vient son accent et qu'est-ce qu'elle est. Une dame lui demande qu'est-ce que vous êtes, et elle répond, au lieu de répondre d'où elle vient, elle dit je suis sage-femme, je vis pour des personnes qui ne sont pas encore quelqu'un, avant les papiers. Et tout de suite après, je n'aime pas l'histoire. L'histoire, c'est guerre, destruction, massacre d'êtres vivants, tout le contraire de sage-femme. C'est-à-dire qu'elle se tient comme une sorte de contre-histoire, en quelque sorte, ou d'une force qui s'oppose au cours de l'histoire.
Non, c'est autre chose. C'est-à-dire que sa vision du monde et de la vie, c'est tout autre. Moi, je la célèbre parce que je pense que sans avoir eu la moindre prétention, c'était quelqu'un d'absolument modeste, à un point qu'on ne peut même pas imaginer, puisque à cause de moi, on ne peut pas l'imaginer. Mais moi, je le sais. Oui, je sais que qu'elle était la personne la plus modeste et la plus. C'était une personne en activité et où toutes les valeurs, c'était l'action, la solidarité, ce qu'on peut faire pour l'autre, sans jamais attendre de reconnaissance ou de remerciement. C'est faire vivre.
Et elle s'est retrouvée en prison en Algérie.
Oui, elle s'est retrouvée en prison. Et alors ça, évidemment, c'est l'événement absolu. Parce que ma mère n'a pas été arrêtée en Allemagne, parce qu'elle est partie dès que Hitler est arrivé.
Oui.
Donc en précédant tout le monde, en essayant d'entraîner ma grand-mère qui a résisté férocement, qui n'a pas voulu partir, ainsi que beaucoup d'autres. Et par contre, alors, pas arrêtée par Hitler, pas pendant la guerre, et au moment en 62, à la fin de la guerre d'Algérie, elle est arrêtée par les Algériens.
Oui.
Alors, je ne devrais pas dire par les Algériens. Par des bandits, par des gens qui c'était après le départ, bien sûr, des Français.
Mm-hmm.
Et ma mère n'avait aucune raison de partir. Elle n'est pas partie. Elle est restée pour mettre au monde d'autres enfants. Et elle a été l'objet d'une manip, d'une magouille de la police pour la faire partir et lui prendre sa clinique.
D'accord. C'est pas complètement expliqué.
Non, parce que c'est du commentaire hors livre. Et ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant, c'est ce que ma mère a fait avec la prison. C'est-à-dire qu'elle a transformé la prison en expérience, une autre aventure de ma mère.
Et quel souvenir est-ce que vous gardez, vous, de l'Algérie? Vous écrivez, j'ai toujours su que ce pays n'était pas le mien, qu'il y avait une superposition hallucinante de racisme et l'exploitation monstrueuse d'un peuple. Ce pays n'était pas vivable.
Oui, mais ça, moi, je n'ai pas eu d'illusion, justement, étant la fille de ma mère.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai toujours su que l'Algérie n'était pas française, que c'était qu'elle avait été volée à elle-même. Et donc j'ai toujours été profondément anticolonialiste, mais je n'ai jamais pensé que l'Algérie était à. D'ailleurs, je peux même pas dire nous, il n'y avait pas de nous.
Mm-hmm.
Voilà. Mais si bien que je ne l'ai pas perdue, puisque je l'ai jamais eue.
Oui, mais vous étiez vue quand même comme des Françaises, comme des Français, et puis il y avait la judéité aussi qui était présente.
Moi, j'ai été élevée par hasard. Par les chapitres dans l'existence, j'ai été élevée du côté allemand.
Mmh.
Parce que ma mère et ma grand-mère allemande se sont retrouvées toutes seules après la mort brutale de mon père. Et donc, je crois que j'ai toujours eu, et je dirais de manière... par bon sens aussi, tout simplement, et par honnêteté, par absence totale de fantasmes, j'ai toujours eu le sentiment que l'Algérie, c'était un moment dans une histoire dont je ne savais pas ce que serait la suite. Et bien sûr que je pouvais pas me dire non plus que ce serait la France, puisqu'on n'avait aucune attache avec la France.
Mmh. Mmh.
Par contre, j'ai été élevée et vraiment alors nourrie par la langue française depuis toujours.
Oui.
Et par mes deux parents, mais surtout par mon père, qui était un fanatique de la langue française. Et qui nous a enchantés quand j'étais petite. On était enchantés par chaque mot, chaque phrase. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas perdre.
Mmh.
D'ailleurs, viennent s'y abreuver même les pauvres minables rabbins ratés. Qui...
Oui, tout à fait.
Ben voilà.
Et c'est là que le lien se fait avec l'héritage paternel d'une certaine manière. Enfin, c'est la foi dans les mots, le pouvoir des mots et les mots comme la langue, comme identité peut-être, ou la seule nationalité possible est dans la langue.
Je dirais ni identité ni nationalité, que j'essaye toujours de chasser loin de moi,
mm-hmm.
mais comme lieu de vie, comme univers, comme promesse,
mm-hmm.
parce que comme promesse, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir, mais c'est un horizon, c'est voilà.
Mm-hmm.
Non, alors c'est là que vient Kepler, si je peux me permettre.
Oui, qui apparaît dans le livre, effectivement, oui.
Parce que Kepler se promène dans mon livre, parce que, d'abord, c'est un hommage à mon fils, le mathématicien.
Oui.
Mais Kepler, c'est exemplaire. C'est un homme pauvre qui est un génie mathématique,
mm-hmm.
À qui on doit des découvertes absolument inimaginables à une époque qui était assez riche quand même, parce qu'il y avait eu Copernic et Galilée, mais lui... Il est en même temps, il est quelqu'un qui a une très mauvaise vue. Il est, comme on disait, polyope, c'est-à-dire il est diplope comme moi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il voit double de tous les côtés. Il a voilà, mais il est capable, en se joignant à Tycho Brahe, de révolutionner le rapport de la Terre au ciel et à l'astronomie, chose inouïe. Mmh. Or sa mère. Et évidemment, c'est ça qui me fait battre le cœur. Sa mère, qui était une vilaine, méchante, bonne femme, a été accusée d'être sorcière.
Ah oui.
Elle a été emprisonnée, elle a été torturée, et il l'a fait, il a, au bout de je sais pas, 7 ou 8 ans d'acharnement, le fils a réussi à faire sortir la mère. Elle est morte tout de suite après parce qu'elle avait été trop torturée. Mais enfin, il a réussi à la faire sortir de la prison de sorcière. Et donc, en étant aussi à la fois voyant ou visionnaire à sa façon de ce qui se passait sur la terre et au ciel. C'est une histoire magnifique. Et en plus, il savait que sa mère était une horreur. C'était pas une sorcière, bien sûr. Mmh. Et là, alors, il rejoint Montaigne, qui est un grand témoin des sorcières, et qui dit, il y en a parfois de ces femmes qui sont horribles. Mais ce dont elles ont besoin, c'est de valériane, et pas de feu, et de... Voilà.
Oui, et pas de torture. On arrive presque au terme de cette émission. On peut pas malheureusement aborder tout ce que je voudrais aborder. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important. Vous dites que vous cherchez à éviter les mots comme identité ou nationalité. Et je me demandais ce que vous pensiez d'aujourd'hui un peu où on a le sentiment que la question de l'identité est devenue absolument centrale. Tout le monde essaie de se définir. On a le sentiment que tout le monde essaie d'appartenir à quelque chose. Tout le monde essaie d'être présent dans l'espace public à travers une identité ou à travers des revendications. Et il me semble que vous, même à l'époque où vous étiez à Nanterre ou même en 68, vous avez toujours refusé de vous identifier à quelque mouvement clair que ce soit. Vous n'avez jamais été militante dans un parti politique. Vous avez toujours essayé d'éviter les étiquettes.
Oui, mais parce que je pense que ce dont vous parlez et qui est très très remarquable aujourd'hui, dont l'indice ce serait par exemple le Brexit, mais le Brexit ne fait que montrer une direction à bien d'autres, ce sont des réactions de peur, c'est-à-dire ces replis, ces replis sur soi, sur les semblables, ce sont des précipitations vers une sorte de terrier, et malheureusement, les gens réagissent à ce moment-là en se rétrécissant, tout. L'espace, l'imagination, l'univers. Bon, voilà.
C'est ça, c'est cette peur. Il y a quelque chose qui apparaît dans votre livre, c'est que quelle que soit... la peur est absente. On a le sentiment que la peur est absente chez votre mère, par exemple, chez vous. La tristesse, parfois, chez votre père, ou le désespoir, mais la peur, non.
Oui, ça, je crois que c'est vrai. Même si ce serait fou de se dire qu'on n'a jamais peur. Enfin, je pense que c'est pas simplement la peur comme ça qui replie, qui rétrécit, qui renferme. Non, c'est l'angoisse que nous connaissons tous parce que nous sommes mortels, parce que nous sommes menacés de vraies pertes, pas d'un pays qui de toute façon est sujet à transformation, mais des gens que nous aimons. De ceux qui font la vie, de ceux qui assurent la beauté dans le monde, parce qu'il y a ça. Et cette beauté, elle est toujours là, rien ne l'enlève. Même cette année ici, je voyais que à cause du confinement, bien des gens se sont dit, mais la nature, c'est beau, tant ils l'avaient perdue. Et tant ils continuent à la perdre, parce qu'à ce moment-là, on touche aux questions de climatiques.
La beauté, rien ne l'enlève. On va achever cette émission sur cette phrase.
O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Audrey Dugas, avec à la réalisation Félicie Faugère et à la technique Jacques Hubert.